notice anything. It's getting dark and it's getting cold and the nights are getting long. And I don't know if you'll even notice it all, that I'm long gone. I don't know if you even notice it all.
Je prie pour que votre vie soit comme cette fleur, cette plante que l'on a vue, qu'elle puisse être enracinée en Dieu, que vous soyez vraiment chaque jour de votre vie rempli du Saint-Esprit, que vos actions, vos décisions soient sous l'inspiration de Dieu. On est déjà travaillé deux fois. On a eu l'introduction sur la notion qu'est-ce que c'était qu'être rempli du Saint-Esprit. La semaine dernière, on a travaillé sur la première partie de la vie de Paul. Paul face à Dieu, la nécessité d'une révélation. Aujourd'hui, le thème de ce matin, c'est Paul et Barnabas, l'importance de la mission. Dieu a un projet pour votre vie, on va appeler ça la mission. Il avait une mission pour l'apôtre Paul, il a une mission pour toi. Quel est le sens de ta vie? Pourquoi ton cœur bat ce matin? Qu'est-ce qui fait que tu as, en dehors du métro boulot dodo, le sens de ta vie? Quel est le projet que Dieu a pour toi? Est-ce que tu sais quel est le projet déjà que Dieu a pour toi? Est-ce que tu as cherché, Seigneur Dieu, toi qui es dans le ciel, qui conduit les choses, qui est capable de diriger les astres, les planètes, est-ce que tu n'as pas quelque chose pour moi? Est-ce qu'il y a un projet de Dieu dans ma vie? L'apôtre Paul a eu besoin de se placer un jour devant Dieu, et on va voir comment, et Dieu lui a montré qu'est-ce qu'il attendait de lui. C'est la mission. Et pour ça, cette mission, tu ne pourras pas la faire seul. Tu ne pourras pas la faire seul. La mission implique qu'on a besoin des amis, on a besoin de frères et sœurs, on a besoin de personnes qui nous aident à porter parce que la tâche est trop lourde pour nous-mêmes. On ne peut pas changer le monde à nous tout seuls. Tu vas pouvoir faire ce que tu peux, mais très vite, tes forces sont limitées. Parce que, comme l'apôtre Paul, tu as des défauts dans ton caractère, mais tu as des forces également, mais tu ne peux pas tout porter toi-même. C'est pour ça que Dieu, lorsqu'il appelle, il qualifie, et il équipe avec des personnes autour de toi, c'est ce que l'on va voir ce matin, Paul et Barnabas, donc l'importance de la mission. On part dans la première lecture de ce matin, juste pour fixer un petit peu le thème, regardez ce que l'apôtre Paul dit dans Acte 13, ça va s'afficher sur vos écrans, Acte 13, 47, on lit un seul verset pour l'instant, « Car le Seigneur a bien défini notre mission. » Car le Seigneur a bien défini notre mission. Est-ce que ta mission est définie? Car le Seigneur a bien défini notre mission. Ce qui va te permettre de tenir, si tu es comme l'apôtre Paul, dans tous les jours de ta vie, dans les moments faciles, les moments difficiles, est-ce que ta vie a du sens? Est-ce que tu sais, est-ce que tu es en projet, en recherche sans cesse d'accomplir la mission que Dieu a prévue pour toi? Que Dieu a prévu pour toi. Alors premièrement, grand 1, on va voir la préparation à la mission. Parce que c'est pas en un jour que ça se passe. C'est pas en un jour. Vous rappelez, on s'est quitté la semaine dernière sur la conversion de Saul, que l'on a du coup appelé Paul. Vous rappelez, je vais juste faire un très court récapitulatif pour ceux qui ont manqué la semaine dernière. Avant de s'appeler l'apôtre Paul, c'était un juif ultra-nationaliste, ultra-religieux. Il s'appelait non pas Paul, mais il avait son prénom juif qui s'appelait Saul. Il avait une double culture. Il était à la fois né à Tarse. Il faisait partie de l'élite juive qui avait appris le grec. Parce que Tarse était une ville importante, une colonie grecque au sud de la Turquie. Et donc l'apôtre Paul, par ses parents, a été immergé, baigné dans une culture élitiste. Et il parlait très bien la langue grecque, la langue romaine. Il parfait le latin. Il était très, très instruit. Mais vous voyez, en même temps, il se sentait déraciné parce que son cœur, ses entrailles, sa généalogie lui disait « t'es juif ». Et quand il est retourné au pied de Gamaliel à Jérusalem, il a été placé par ses parents dans une école donc judaïque où il travaillait absolument à apprendre par cœur la Torah. Et c'est à ce moment-là que Jésus est venu sur la terre. Certains de ses amis de l'apôtre Paul, on l'a vu la semaine dernière, se sont convertis, se sont tournés vers Jésus. On les appelait d'ailleurs, on les appelait la secte. Parce qu'à l'époque, tous ceux qui devenaient chrétiens, on les appelait la secte. Et Paul a persécuté, il dit « j'étais animé d'un zèle pour Dieu, un zèle farouche ». Parce qu'il avait une religion, mais il n'avait pas de relation avec Dieu. Il ne connaissait pas Dieu. Il connaissait les livres de Dieu, Il connaissait ce que les autres lui avaient raconté de Dieu, mais lui personnellement ne connaissait pas Dieu. Il n'avait jamais entendu Dieu lui parler. Alors il pouvait très bien appliquer des théories, mais il n'avait pas de pratique. Et il était dur. Parce qu'une religion sans une véritable communion avec Dieu, c'est sec, c'est dur et ça casse. C'est pour ça qu'il y a autant de conflits aujourd'hui de religion. Si tu ne connais pas, si tu n'as pas une relation personnelle, tu ne connais pas l'amour de Dieu, tu es dangereux. Tu es dangereux, malgré ta religion, tu es dangereux. Et un jour sur le chemin de Damas, l'apôtre Paul a été bousculé. Il a vu une vision du ciel, une voix qui venait du ciel et qui disait « Saul, Saul », parce que Dieu respecte sa langue. Hein. Dieu respecte ta langue, Dieu respecte tes principes. Dieu n'est pas quelqu'un qui te force. Hein. Il dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Qui es-tu, Seigneur ? Ça fait des années que j'ai une religion, mais je ne connais pas Dieu. » Il était aveuglé par une énorme lumière et puis il a accepté d'être conduit. C'était ça la préparation. Ça commence d'abord par le temps de la révélation. Vraiment, est-ce que toi, ce matin, tu as fait un demi-tour dans ta vie, comme l'apôtre Paul a fait un demi-tour ? Il allait dans un sens, il a été retourné par Dieu. Il a fait un demi-tour sur lui-même, ça s'appelle une conversion. Et Paul dira, je n'ai pas résisté à une vision céleste. Est-ce que tu as vu Dieu ? Est-ce que tu connais Dieu ? Sinon, tu n'es qu'un religieux et ça ne fera pas de toi un ami de Dieu. Le temps de la mise à l'épreuve. Vous vous rappelez, la semaine dernière, on s'est quitté là-dessus. C'était dur au début. Hein. Après le zèle des premiers temps, il était motivé. Lui qui était l'ultra dur, l'ultra conservateur, il avait prévu de mettre les chrétiens en prison. Il s'est retrouvé lui-même à prêcher en disant « Hey, j'ai une annonce incroyable, Jésus est ressuscité. Je l'ai rencontré, ça a changé ma vie. » Les gens disent « Mais il est fou. Mais qu'est-ce qui lui prend ?» Et l'apôtre Paul n'a pas hésité à aller dans les synagogues et dire « Je crois que Jésus est le Messie, le Fils du Dieu vivant, qu'il est l'espoir pour le peuple. » Oh, croyez pas que parce que vous, vous rencontrez Dieu, les autres le rencontrent aussi. Ils ont commencé à le persécuter. Ça a été tellement, tellement dangereux qu'ils voulaient le mettre à mort. Il a dû être sorti de la ville par des moyens... comme on pouvait, par un grand panier, on a vu ça la semaine dernière, il est sorti par la muraille de Damas, ils l'ont fait sortir comme ça. Et après, il est allé voir les frères, et on s'attendrait à ce que les frères de chrétiens lui fassent bon accueil. Rien du tout, ils se méfiaient de lui. Alors, on s'est quitté la semaine dernière avec l'apôtre Paul, comment on va dire, il a été mis de côté, on l'a renvoyé à Tarse. Tars, c'est d'où il vient en fait. En gros, il n'est pas vraiment de soutien. S'il y en avait un qui l'avait soutenu, c'était Barnabas, on l'a vu. Et je vous avais dit, est-ce que vous avez quelqu'un qui vous soutient ? Est-ce que vous avez un ami, un proche, quelqu'un qui connaît Dieu, qui peut vous aider dans les moments où vous avez vraiment besoin de prière ? Paul avait Barnabas, heureusement qu'il avait Barnabas. Merci Seigneur pour les fois où j'ai eu un ami qui était là. Et Dieu, tout ça, c'est la préparation. Il y a un temps de mise à l'épreuve dans la préparation. Après le premier temps, qui est le temps de la passion, il y a un temps de mise à l'épreuve. Et il est mis à l'écart. Alors, on prend acte 11, 25. Acte 11, 25. On est toujours dans cette première partie, la préparation. Acte 11, 25. On va même prendre à partir du verset 22. Verset 22. Acte 11, verset 22. Bientôt, l'église de Jérusalem a pris la nouvelle. Quelle nouvelle ? Qu'il y a énormément de personnes qui se donnent à Christ. Qu'il y a des conversions par centaines dans la ville d'Antioche. Antioche, c'est une ville de Syrie. C'est-à-dire, c'est le port, en fait, qui dessert Damas. Donc, c'est dans toute la zone où l'apôtre Paul, d'ailleurs, allait pour arrêter les chrétiens à la base. Donc, il y a un réveil à Antioche. À son arrivée, donc elle envoya Barnabas à Antioche. À son arrivée, il constata que la grâce de Dieu avait accompli et il fut rempli de joie. Il encouragea tous les croyants à rester fidèles au Seigneur avec une ferme assurance. Barnabas, en effet, était un homme bienveillant, rempli d'Esprit Saint et de foi. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose, ça ? Pour ceux qui sont les affamés de la Bible, de la parole de Dieu. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Rempli d'Esprit Saint et de foi. Vous rappelez la semaine dernière, qui était rempli d'Esprit Saint? C'est la même expression qui est utilisée, Étienne. Vous rappelez, je vous avais dit, si le grain de blé tombé en terre n'accepte de mourir, il pourra jamais porter. Mais s'il accepte de mourir, Dieu multiplie et multiplie et multiplie. Et Paul et Barnabas, je vous avais dit, font partie de ces grains de blé qui étaient semés parce que d'autres ont accepté de donner leur vie. Alors regardez, remplis d'Esprit Saint et de foi, un grand nombre de personnes s'attachèrent au Seigneur. Barnabas se rendit alors à Tarse pour y chercher Saul. Quand il l'eut trouvé, il l'amena avec lui à Antioche. Antioche. Où est-ce que se trouve Saul à Tarse? J'ai une question à vous poser ce matin. Est-ce que vous rappelez où est-ce qu'était... Donc Paul était à Tarse. Moi, je me suis posé cette question. Lorsque Paul était à Tarse, il y a lundi qui passe. Il y a mardi, un mercredi, un jeudi. Et on se dit, Seigneur, je ne comprends pas, j'ai été appelé par toi, j'ai vu une vision céleste, ça a bousculé ma vie. Ça a commencé très fort et là je suis sur la touche. Vous n'avez jamais eu l'impression d'être sous la touche des fois? C'est ce que j'appelle le temps de mise à l'épreuve, vous êtes dans la préparation de la mission. L'apôtre Paul, il est à Tarse et il tourne en rond. Est-ce que ce n'est pas quelqu'un qui a énormément de qualités? Mais si! Est-ce qu'il a un appel incroyable? Oui! Et pourtant, pendant un temps de sa vie, il peut se retrouver sur la touche. Dieu permet parfois qu'on soit comme oublié, ça va peut-être vous choquer ce matin, mais oublié, où les jours passent et rien ne semble se passer. Jusqu'à ce que Barnabas dise « Je vais chercher Paul ». En fait, dans la préparation de la mission, il y a le temps de Dieu. Et ça, c'est très important. Il y a un temps de préparation. Et je pense que c'est un temps de mise à l'épreuve. Est-ce que tu sais être patient quand tu te trouves à Tarse et que ta vie n'a pas toute la dimension que tu voudrais? Paul était là, il se préparait. Est-ce que ton culte personnel est solide? Est-ce que tu passes ton temps dans la louange? Est-ce que tu es fidèle au Seigneur? Tu es fidèle, tu t'investis dans ton église? Il y a un temps où Dieu te regarde. Où Dieu te regarde. Où tu n'es pas sur le devant de la scène, c'est Dieu regarde les coulisses. Il prépare, vous voyez, c'est comme si vous voyez une comédie musicale ou une pièce de théâtre, vous voyez la performance des acteurs comme ça, mais il y a un travail de fou derrière. Il y a eu quelqu'un qui a amené le matériel, qui a préparé les décors, les costumes ont été taillés, mais 1, 2, 3 ans en avant par les couturières. Il y a des personnes qui en coulisses gèrent le maquillage. Il y a des personnes qui retravaillent le texte. Ça se fait pas comme ça. Vous voyez, vous dites, vous regardez un film, ça passe en 1h30, c'est fini. Mais il y a 2 ans de travail derrière. C'est pareil avec Dieu. Dieu va pas te lancer comme ça sans préparation. Et Dieu regarde si en coulisses, t'es sérieux. Et c'est le temps où il appelle. Et troisième point de cette préparation à la mission, le temps où Dieu fait bouger les choses. Je suis heureux parce que je me rends compte que Dieu fait bouger les choses. Vous êtes encore là ce matin? Vous y croyez pas? Est-ce que vous croyez que Dieu est celui, le même Dieu qui des fois permet qu'on est en zone d'attente, ce même Dieu fait bouger les choses? Sois prêt le jour où Dieu vient. Vous voyez, quand Barnabas lui dit « Et Paul, c'est maintenant et on part », il a 2 heures pour faire sa valise. Hein. Il a 2 heures pour faire sa valise. Est-ce que tu es prêt à rentrer dans les projets de Dieu comme ça? Alors il part, il embarque, ils vont à Antioche. Et là, regardez, dès le début, ça commence. Ils passèrent toute une année à travailler ensemble dans l'église. Ils enseignèrent beaucoup de gens. C'est à Antioche, pour la première fois, que les disciples de Jésus furent appelés chrétiens. À cette même époque, des prophètes se rendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et prédit sous l'inspiration de l'Esprit une grande famine qui sévirait bientôt dans le monde entier. Elle eut lieu, en effet, sous le règne de l'empereur Claude. Les disciples d'Antioche décidèrent alors de donner, chacun selon ses moyens, et d'envoyer des secours, donc en gros ils mettent de l'argent, des provisions, quoi, aux frères qui habitaient la Judée. C'est ce qu'ils firent, ils envoyèrent leurs dons aux responsables de l'église par l'intermédiaire de Barnabas et de Saul. Alors vous voyez là encore, je voudrais vous... On est à la fin de cette préparation à la mission. Mais quand Dieu fait bouger les choses, Dieu regarde ce que tu fais. Et quel est le programme de l'apôtre Paul ? L'apôtre Paul, il est prêt à tout pour Dieu et il est prêt à bosser dans n'importe quel domaine. Moi, des fois, je crois que les chrétiens, on est très exigeants avec Dieu. On dit, Seigneur, quel est ton appel hyper précis que tu as sur ma vie ? Est-ce que c'est ça ou c'est ça ? Et quelque part, vous mettez Dieu en case. Et Dieu, il veut surtout voir votre cœur. L'apôtre Paul, il y a des gens qui ont besoin d'enseigner, il va enseigner. Il y a des familles à secourir, il est prêt à secourir. Qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il transporte les finances ? Il est comptable. L'apôtre Paul, il commence en étant comptable de l'église d'Antioche. Point barre. C'est pas lui le responsable, c'est pas lui le pasteur, il est comptable. Et à titre de comptable, il dit, je vais me déplacer, je vais amener les chèques de mes collègues et je vais les amener pour soutenir les frères et sœurs qui sont dans la famine à Jérusalem. Mon boulot, c'est de servir tout ce que ma main trouve à faire, je le fais. Dieu regarde ton cœur. Si t'es, Seigneur, je veux qu'un travail valorisant. Ah, tu vas attendre. Il y a un moment où dans la maison de Dieu, tu te mets au boulot. Et l'apôtre Paul, Dieu le voit. Est-ce que c'est ça qui va le faire toute sa vie ? Est-ce que vous croyez que Dieu a prévu que l'apôtre Paul soit comptable toute sa vie ? Non. Mais sur le temps, ça c'est un appel et c'est un appel très valorisant pour la personne à qui Dieu a donné cette fonction. Mais ce n'est pas la fonction de l'apôtre Paul. Pourtant, et je le note dans les Écritures, Dieu permet des fois que notre tâche, notre service dans les églises puisse bouger. Vous me suivez ? Ce n'est pas parce que vous avez fait un jour quelque chose que vous êtes forcément toujours là. Laissez-vous conduire par l'Esprit. Laissez le Saint-Esprit conduire vos choix, vos décisions. Et le Saint-Esprit est un être vivant et ça bouge. Et ça bouge. Alors, là, le dernier point pour la préparation à la mission. Pourquoi je dis ça ? Parce que je dis qu'il faut... Il faut aussi tenir compte des temps de Dieu. Et il y a un signe, c'est que Dieu, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Comment le dire ? Je remarque qu'il y a des endroits où le Saint-Esprit bouillonne. Il y a des endroits sur la terre, et je le constate à travers l'histoire, où c'est comme si le Saint-Esprit était particulièrement présent un certain temps dans un certain lieu. Et une des caractéristiques, c'est qu'il y avait des gens qui venaient de partout et que ces personnes-là étaient en feu. C'est comme si le Saint-Esprit réunissait sa dream team. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et ça, moi je ne l'ai pas vécu tout le temps dans ma vie. Mais je me suis rendu compte qu'il y a eu des temps dans ma vie où j'ai été entouré de collègues et on ne se rendait pas compte à l'époque combien Dieu était en train de nous visiter. Moi, j'ai fait des colonies de vacances où on disait « Oh, c'est super colo et tout, il y a vraiment une onction de Dieu. » Le soir, il y avait vraiment des réunions incroyables, il y avait des prophéties, des pensées, des appels, etc. Et à l'époque, on avait tous 18 ans et on ne se rendait pas compte que plus tard, quelques temps après, dans ce petit bungalow, cette petite bâtiment en dur, il y avait en fait 10 pasteurs qui étaient concentrés, mais on ne le savait pas. Et on ne savait pas que Dieu avait quelque part fait venir de partout des personnes qui avaient le même appel pour que ça bouillonne ensemble. Ne manquez pas les temps où Dieu vous visite. Ne manquez pas les temps où Dieu vous visite. Moi, je crois qu'il se passe des choses. Moi, je crois que dans cette église, il se passe des choses. Je crois qu'il y a dans certains rassemblements, il se passe des choses où il y a quelque chose de surnaturel. Sans communication, sans pub, sans que ce soit les hommes qui essayent d'inviter ceci, etc. Je remarque qu'il y a des prophètes qui viennent de Jérusalem, il y a Barnabas, il y a Saul qui vient de Tarse, il y a de partout, clac, 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 clac. Dieu fait un réveil à Antioche, organisé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Alors regardez comment la mission se précise, on est dans le deuxième point. La mission se précise dans Acte 13. Acte 13. La mission se précise. Il y avait alors dans l'église d'Antioche des prophètes et des enseignants, Barnabas, Siméon, surnommé le Noir, Lucius, originaire de Cyrène, Manaen, ça c'est le verset premier, qui avait été élevé avec Hérode, le gouverneur, et Saul. Tout ça, vous voyez, on retrouve la notion de mélange de juifs et de hellénistes dedans, toujours. Un jour, alors qu'ils adoraient le Seigneur, et qu'ils jeûnaient, ils ont faim de Dieu. Ils n'ont pas faim de manger, vous voyez. Ils ont faim de Dieu. Quand Dieu retrouve dans un lieu des hommes et des femmes qui préfèrent sauter des repas parce qu'ils ont tellement faim et soif de Dieu, il se passe quelque chose. Regardez ce qui se passe. Alors, après avoir jeûné et prié, pardon, j'ai sauté une phrase. Le Saint-Esprit leur dit, mettez à part pour moi Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Est-ce que tu pourrais mettre ton prénom là? Mettez à part pour moi. Tu mets ton prénom pour l'œuvre à laquelle je l'ai appelé. T'en as pas envie? T'en as pas envie? T'as pas envie de, un jour d'entendre « Seigneur, je veux... » Vous imaginez le Saint-Esprit qui dit « Mettez à part. » Oh, t'as ton prénom. Oh, c'est bouleversant, hein? C'est bouleversant. Mais ils avaient faim. Ils avaient faim des choses de Dieu. Est-ce que tu as faim des choses de Dieu? Dieu se révèle à celui qui le cherche. La mission vient de qui? Vient de Dieu. La mission vient de Dieu. La mission vient du Saint-Esprit. On n'est pas autoproclamé. Hein? La mission vient de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui dit, voilà, c'est pour moi. Deuxième chose que je note. Le verset, il est dit, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. C'est donc envoyé par le Saint-Esprit que Barnabas et Saul descendirent à Séleucie où ils embarquèrent pour l'île de Chypre. Qu'est-ce que je remarque? Un, la mission vient de Dieu, mais la confirmation vient des hommes. Vous avez vu ça? Ne partez pas tout seul. Ne partez pas sans l'approbation. Si quelqu'un un jour d'entre vous vient me voir en disant « Pasteur, j'ai un appel pour une missionnaire au Turkménistan. » Je peux entendre. Mais si jamais il n'y a pas de confirmation dans les autres et que l'Église et que les personnes qui sont autour de toi n'attestent pas ces choses, ne pars pas. Tu pars à l'aventure. Si ça vient de Dieu, c'est confirmé par les autres. Il y a une paix. Vous voyez, tous les anciens, toutes les personnes à l'église d'Antioche sont mis autour. Ils ont prié. Ça vient de Dieu. On l'a entendu. On est d'accord. Et ils partent avec la bénédiction. Lorsque tu as une mission de Dieu, ta mission vient de Dieu. Mais par contre, la confirmation vient des autres. Vient des autres. Tu peux pas, sinon tu deviens un illuminé spirituel. Tu es un illuminé spirituel. Tu vas dire, Dieu m'a dit que. C'est pas, vous voyez, le jour où tu es obligé de dire, je sais ce que j'ai parce que Dieu m'a dit que, il y a un problème. Si ça vient de Dieu, Dieu le dit aussi aux autres. Parce que Dieu veut pas que tu pars tout seul. Et il sait que tout seul, tu pourras rien faire. Quand ça vient de Dieu, il y a une paix dans l'ensemble et tout le monde est d'accord. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté, il y a l'unité. Et le Saint-Esprit atteste et tout le monde est en paix. Et ils disent, ok, Barnabas, Paul, prenez vos voyages, le billet, c'est parti. Alors ils partent direction Chypre. Oh, alors, quand on est dans la mission qui se précise, Dieu révèle progressivement, clarification, éclaircissement, mise en place de la mission. Je note, ils vont vers où? Ils vont vers où? Ils vont vers Chypre. Ah non, moi je veux qu'ils aillent à Tarse. Pourquoi ils vont à Chypre? Ils vont à Chypre parce que Chypre, c'est l'île de Barnabas. Et moi, ça me dit quelque chose. Ça veut me dire quelque chose, ça veut dire qu'il y en a un qui est quand même le chef là-dedans, c'est pas Paul. Et qu'il faut beaucoup d'humilité et beaucoup de soumission des fois. Dieu a dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul, mais dans le duo là, celui qui est chef, c'est Barnabas. Et ils vont dans le port, c'est le port d'Antioche. Antioche est la troisième plus grande ville de l'Empire romain à cette époque-là. Hein. Troisième plus grande ville. Et il y a Rome et Alexandrie. Antioche, c'est énorme. C'est une très, très, très grande ville. Et ils partent, ils prennent le bateau à Séleucie, qui est le port d'Antioche, et ils naviguent vers Chypre. Parce que je pense que Barnabas dit, j'ai à cœur Chypre. J'ai à cœur Chypre. Et Paul n'est pas en train de dire, oui, mais moi, je ne suis pas trop d'accord. Parce que, ouais, y a un moment où, est-ce que vous êtes prêt quand vous partez en mission à faire mourir un petit peu vos goûts personnels, vos désirs personnels? C'est un renoncement, la mission. Votre mission. Je ne parle pas du fait de partir au-delà des mers pour vous. Hein. Votre mission, c'est ici, c'est dans votre quartier, c'est avec votre voisine, c'est dans votre travail, c'est peut-être dans votre famille que Dieu vous appelle. Mais ça va vous demander des fois du renoncement, une mort à vous-même. Et l'apôtre Paul, il accepte. Et d'ailleurs, ils prennent quelqu'un avec eux, puisqu'il est dit, une fois arrivé à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Jean-Marc était avec eux, et les secondait. Donc, il y a un petit peu des équipiers. Tournez la page, enfin, moi je dois tourner la page, peut-être pas vous, mais au verset 13. Il est dit, Paul et ses compagnons reprirent la mer à Paphos. Ils arrivèrent à Pergé en Pamphylie. Là, Jean-Marc les abandonna. Lâcheur. Jean-Marc les abandonna et retourna à Jérusalem. Sympa, les collègues. Il y a le second qui les lâche. Vous n'avez jamais vécu ça? Vous êtes en train de servir à Dieu, vous êtes en train de vous fatiguer, vous avez besoin d'aide. Et là, vous avez un coup de téléphone. Bon, ma sœur, ben en fait, je vais arrêter, moi, je vais plus. Non, mais me lâche pas dans le service, c'est la galère! Et Jean-Marc les lâche à ce moment-là. L'apôtre Paul, il va l'avoir mauvaise. On va le voir un petit peu plus tard que ça, c'est des trucs qui... Ça va rester, ça, hein. C'est dur de travailler en équipe. Vous aimez travailler en équipe? Vous dites oui, mais c'est dur. C'est dur d'avoir des ordres. C'est dur d'avoir des copains qui nous lâchent. C'est dur de devoir dire, OK, Barnabas, c'est toi le leader. Je voulais aller là, mais c'est toi qui... OK, bon, tu prends... Bon, Jean-Marc, il nous a lâchés. Bon, c'est dur de travailler en équipe. Dernier point sur ce grand 2, la mission qui se précise. Je voudrais vous parler du fait que vous ne verrez pas l'appel précis de Dieu dès le début. Si Dieu a dit à Abraham, je t'instruirai, je vais te révéler progressivement, va vers le pays que je te montrerai. Pas le pays que je te montre, c'est un futur, que je te montrerai. Je te le montrerai progressivement, clarification progressive. Tu ne vas pas avoir le plan complet dès le départ. Tu n'auras pas le plan complet de ce que Dieu attend de ta vie dès le départ. Non, ce n'était pas le cas d'Abraham, ce n'est pas le cas de l'apôtre Paul non plus. Il n'a pas le plan. Et tu vas faire des petites erreurs dans le plan. Dieu, ton caractère va bouger. Donc même ta façon de servir Dieu, tu ne vas pas le vivre de la même façon. Je vais vous donner juste un exemple. Je n'ai pas le temps parce que je vais aller plus vite. Mais vous voyez sur Elimas le magicien. Quand ils vont arriver à l'île de Paphos, l'apôtre Paul, c'est encore un... Comment dire? Je crois que le mot le plus juste, c'est chaud bouillant, mais dans tous les sens du terme. Il est chaud, il est bouillant du Saint-Esprit, mais il a encore des vieux réflexes, comme nous on a des fois quand on vient de se convertir. Il y a Elimas le magicien, qui est au verset 8, qui dit « Magicien, donc Elimas le magicien, car c'est ainsi que se traduit son nom, s'opposait à eux, il cherchait à détourner le proconsul de la foi. Alors Saul !» qui s'appelait aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, s'adressa à lui et le regardant droit dans les yeux, charlatan, plein de ruse et de méchanceté, fils du diable, ennemi de tout ce qui est bien. Quand cesseras-tu de fausser les plans du Seigneur qui sont droits? Maintenant, attention, la main du Seigneur va te frapper, tu vas devenir aveugle. Et pendant un certain temps, tu ne verras plus la lumière du soleil. Ça rigole pas, hein? Là, l'apôtre Paul, il est rempli. Et vous, alors, je suis sur des œufs, moi aussi, pour vous le dire. Parce que je pense que le Saint-Esprit... ça va être un peu... J'ai besoin de tout votre cerveau, là, toute votre compréhension et que le Saint-Esprit vous aide aussi à comprendre et moi à ne pas dire de bêtises. Mais je ne dis pas que le Saint-Esprit n'est pas d'accord avec ça. Puisque concrètement, Elimas le magicien, il ne va plus rien voir. Il y a blackout total pendant quelques temps. Et le proconsul va se tourner vers Dieu parce qu'il va voir que justement ce sorcier-là a été out. Et ça va être une preuve de l'action de Dieu. Mais pourtant, ça, c'est mon interprétation. Donc là, je pense vraiment ce que je vous dis, mais vous avez le droit de mettre des réserves. Voilà. Je pense qu'à la fin de sa vie, l'apôtre Paul n'aurait pas fait comme ça. Parce que quand je vois comment l'apôtre Paul s'occupe des personnes un peu plus tard, notamment cette femme qui est possédée avec un esprit de python, etc., il est beaucoup plus doux, beaucoup plus zen, et il est beaucoup plus patient. Je pense qu'au début de sa conversion, il est tout feu, tout flamme, et il n'est pas dans la négociation, vous voyez. Il est pas, il cherche même pas, il dit « toi, tu t'opposes à Dieu, t'es out ». Et vous savez pas quoi? Je crois que le Saint-Esprit, il vous laisse assez libre. Et c'est ça qui est dangereux aussi. Et ce que je vous dis, c'est j'ai mis des années à le comprendre. Mais je crois que le Saint-Esprit est assez souple. Et quand Dieu dit « je vous donne l'Esprit, vous avez une puissance sur vous », c'est vous qui avez la responsabilité de ça. Parce que le Saint-Esprit est prêt à faire des choses avec vous. Je vois dans l'Ancien Testament qu'il y a un certain Élisée à un moment, il y a des enfants qui se moquent de lui, il dit « Dieu, punis-les, il y a des ours, etc. » de la forêt, il y a un massacre. Dieu, c'est quoi cette histoire ? Parce que, en tant qu'homme de Dieu, je pense que Dieu met sur vous une puissance qui ne veut pas dire qu'il apprécie tout votre caractère. Et c'est pour ça qu'il y a, à mon avis aussi, quelque chose qui nous trouble, c'est que vous allez peut-être voir des grands prédicateurs, des personnes qui ont des miracles, des prodiges, des guérisons, et leur caractère est très décevant. Et autant il y a des belles choses qui se passent, autant dans la façon de faire, il y a une petite gêne à l'intérieur qui se dit « Oula, quelque chose qui me dérange là-dedans. » Et je pense que c'est une question aussi de vous voyez, c'est l'apôtre Paul qui va écrire aux Galates. Le fruit d'esprit, c'est la paix, la joie, la patience, la bonté, la maîtrise de soi, etc. Il va l'écrire un peu plus tard. Hein. Il l'a appris. Que le Seigneur vous prépare quand votre mission va s'affiner, votre méthodologie va s'affiner. Il y a des choses, si je demandais des témoins ce matin, je suis sûr que j'aurais plein de mains qui se levaient, de personnes qui ont des années de conversion qui diraient « C'est vrai, on a fait des choses avec un zèle pour Dieu, dans une église, etc. Et si c'était à refaire, on ne le referait pas tout à fait pareil. On ne le referait pas tout à fait pareil. » Mais Dieu bénit quand même. Hein. Là, Dieu est souple et le Saint-Esprit bénit. Et puis ce proconsul va retrouver la foi. Et puis apparemment, l'apôtre Paul a mis quand même une cécité temporaire. Puisqu'il a dit que pendant quelques temps, tu ne vois plus. Mais c'était quand même dur. Hein. Bah, lui-même avait été aveugle. Hein. Donc il savait que Dieu pouvait lui permettre de recouvrir la vue. Mais il ne fait pas dans la dentelle. Quoi. Il ne fait pas dans la dentelle l'apôtre Paul au début de sa vie. Et je termine ce point. Pardon, c'est deux fois que j'ai dit que je termine ce point. L'élargissement de la mission, au verset 46, pour terminer ce chapitre, au verset 44 à 46, dans le chapitre 13, « Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour écouter la parole du Seigneur. En voyant tant de monde, les Juifs furent remplis de jalousie et se mirent à contredire Paul, à l'injurier. Paul et Barnabas leur déclarèrent avec une pleine assurance. C'est à vous en premier que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la refusez et que vous-même ne vous jugez pas digne d'avoir part à la vie éternelle, nous nous tournons vers ceux qui ne sont pas juifs. Car le Seigneur a bien défini notre mission lorsqu'il a dit « Je t'ai établi pour que tu sois lumière des nations et pour que tu portes le salut jusqu'au bout du monde. » L'idée pour terminer ce thème de la mission se précise, c'est que il n'avait pas réalisé que Dieu voulait plus pour lui. Il ne faisait que prêcher dans les synagogues, l'apôtre Paul. Il ne faisait que prêcher à des juifs. Qu'est-ce qui a fait qu'il s'est mis à dire « Mais peut-être que des personnes non juives ont également droit d'entendre la bonne nouvelle de l'Évangile. » Je ne sais pas combien il y a de personnes qui sont d'origine juive aujourd'hui dans cette salle, mais je pense que tous les autres, vous devez être très reconnaissants de ce qui s'est passé ce jour-là. Pourquoi ? À cause des problèmes. C'est grâce aux problèmes qu'on a été au bénéfice de l'Évangile. C'est parce que l'apôtre Paul a rencontré des soucis que sa mission s'est élargie. Et toi qui n'arrêtes pas de te plaindre et dire oh « Dieu, pourquoi ? Pourquoi tu permets que ma chef elle me bloque ? Pourquoi dans ma famille c'est bloqué ? Pourquoi mon mari c'est comme ça ? Pourquoi ?» Mais dans les problèmes, Dieu peut élargir ta vision, Dieu peut élargir ta mission. Alors que les autres pensent t'embêter, ils te bénissent. Nous, on l'a vu, hein, on l'a vu. Moi, quand je pense à ce bâtiment qui nous a été refusé à Saint-Maur, on a fait des... Moi, j'ai tapé du pied, j'ai dit « Seigneur, pourquoi ? Un an de boulot, il y en a marre, tu bénis pas alors qu'on avait prié, on avait jeûné, etc. » Quand je vois ici ce matin, je dis « Seigneur, merci, j'aurais pas dû, t'as bien fait, alléluia, je bénis le maire de Saint-Maur qui nous a dit non, on est mieux ici. » Vous voyez, c'est ça la vie, sauf que tu le vois plus tard. Laisse Dieu te conduire. Alors le dernier point, bon là par contre je termine, mais ça va être fort et un peu dur. Donc les âmes sensibles et ceux qui pensent que si vous servez Dieu, il n'y a aucun problème, vous allez avoir une petite déconvenue. On termine avec cette idée de Lystre. Lystre, l'accomplissement de la mission. Paul et Barnabas, c'est la dernière fois que je vais parler de Paul et Barnabas là, ce matin. Regardez ce qui se passe. 14:8. À Lystre se trouvait un homme paralysé des pieds, infirme de naissance. Il n'avait jamais pu marcher. Il écoutait les paroles de Paul. L'apôtre fixa les yeux sur lui et, voyant qu'il avait la foi pour être sauvé, commanda d'une voix forte. « Lève-toi ! Tiens-toi droit sur tes pieds !» D'un bond, il se mit debout, se mit à marcher. Extraordinaire. Un miracle en live. L'apôtre Paul passe dans la ville de Lystre. Il voit un homme jamais marché de sa vie. Il voit qu'il a la foi. Parce qu'il l'écoute, il mange les paroles de tu lève-toi et marche. Et ce paralysé se leva. La mission vous fait agir par la foi. Dans le troisième point qui est l'accomplissement de la mission, tu l'accomplis par la foi. Il y a un moment où tu dois donner tes tripes, donner tout ce que tu as à dire. Seigneur, j'ai pas grand-chose, mais ce que j'ai, je le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. C'est ce qu'avait fait Pierre, c'est ce que fait Paul. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Lève-toi. Est-ce que tu sais dire lève-toi à quelqu'un? Tu sais dire lève-toi aux autres? Est-ce que tu sais aider les autres? Mais pas seulement avec des paroles, qui est de confirmation derrière. La personne se lève. Waouh! Quand ils virent ce que Paul avait fait, les nombreux assistants crièrent dans leur langue le lycaonien. Les dieux ont pris forme humaine! Ils sont descendus parmi nous! Ils appelaient Barnabas Zeus et Paul Hermès parce qu'il était le porte-parole. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il y a un miracle hallucinant. Au lieu de dire gloire à Jésus, ils disent c'est pas Saint Paul là, c'est Dieu Paul. Dieu Barnabas. Alors vous avez besoin d'un petit peu de culture pour ceux qui n'ont pas fait, je pense que c'est nombreux, ils n'ont pas étudié les métamorphoses d'Ovide. C'est parce que c'est dans la mythologie. Et il faut comprendre ça. Là, pour le coup, la culture est très importante pour comprendre ce texte. Dans la mythologie, à Lystre, c'est là où ils sont. Les habitants de Lystre, depuis qu'ils sont petits, ont été enseignés à une mythologie qui disait que dans les temps anciens, les dieux étaient déçus, parce que c'est un monde polythéiste, hein, on est dans le monde gréco-romain, les dieux étaient fâchés contre la ville de Lystre, parce que la ville de Lystre était réputée pour ne pas pratiquer l'hospitalité. Et dans le Moyen-Orient ancien, une des plus graves fautes sociales était la non-hospitalité. Regardez Sodome et Gomorre, c'était la non-hospitalité. Très, très grave. Dans un monde où on peut mourir de la non-hospitalité, très, très grave. Alors la mythologie disait que Zeus et Hermès étaient descendus pour vérifier. Et qu'ils étaient descendus dans la ville de Lystre. Et comprenez ça, parce que les gens ont réagi comme ça, c'est pour ça. Que Zeus et Hermès étaient descendus dans la ville de Lystre, ils avaient frappé aux portes pour voir qui allait les accueillir. Porte fermée. Porte fermée. Porte fermée. Porte fermée. La mythologie dit, les dieux, fâchés, tentèrent une dernière porte. Et là, ils ont frappé chez Philémon et Baucis. Un petit groupe de papy-mamie, deux, qui les ont accueillis, qui ont préparé, qui voulaient préparer une oie pour les nourrir, etc. Zeus et Hermès auraient été touchés de cet accueil et auraient dit, nous sommes des dieux, on se révèle à vous maintenant, puisque les autres, ils s'étaient cachés sous forme humaine. Les dieux étaient cachés sous forme humaine. Et donc, voilà, en fait, on est, voici Hermès, moi Zeus, vous êtes les seuls qui nous avez accueillis, donc on veut vous récompenser. Alors il dit qu'on soit unis à jamais. Et donc du coup, il dit, ben, à l'endroit de votre maison, il y aura un temple à Zeus et Hermès. Et vous allez être comme un grand chêne et un tilleul qui vont s'entrelacer et vous serez unis pour la vie. Et c'est la mythologie de la ville de Lystre. Donc quand l'apôtre Paul et Barnabas arrivent, les habitants de Lystre vont dire, on va pas se rater une deuxième fois. Ils voient un miracle, ils disent, on vous a vu, cette fois-ci on sait, c'est vous, toi t'es Hermès et toi t'es Zeus. Et du coup, ils appelaient Barnabas Zeus et Paul Hermès parce qu'il était le porte-parole. Le prêtre du dieu Zeus, donc, dont le temple se trouvait à l'entrée de la ville, vous savez le fameux arbre, le tilleul et le chêne, fit amener des portes, devant les portes de la ville, des taureaux ornés de guirlandes de fleurs. Déjà il s'apprit avec la foule à leur offrir en sacrifice. Oh là là, ça part très très mal. quand les apôtres Barnabas et Paul l'apprirent, ils déchirent leurs vêtements en signe de consternation, se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant « Amis, que faites-vous là ? Nous ne sommes que des hommes, nous aussi, semblables à vous. Nous sommes venus pour vous apporter une bonne nouvelle, etc. » Et puis, il essaye de les raisonner. Il dit « Ils eurent bien du mal malgré tout ça », verset 18. En parlant ainsi, ils eurent beaucoup de mal à les dissuader de leur offrir quelque chose en sacrifice. Hein, mes amis, le jour où vous êtes appelés par Dieu, vous savez ce qui va se passer ? Il va y avoir des miracles. Parce que Dieu va vous bénir. Et vous savez ce qui va avec le miracle ? Le fait qu'il y a des hommes qui vont essayer de vous corrompre. Et là, je parle à tous ceux qui en appellent sur leur vie, notamment à partir du moment où c'est public. Vous êtes en danger. Parce que le diable, n'ayant pas pu vous arrêter, va vous balancer en avant. Et va essayer de trouver, de mettre sur votre route des flatteurs. Des gens qui vous diront un petit chèque, et tu viens bénir ma maison. Est-ce que tu ne peux pas faire une petite différence pour ma fille ? C'est vrai que bon, mais pour elle, est-ce que tu ne peux pas ? Et puis tu es un grand homme de Dieu. Oh, et puis quelle femme de Dieu ! Puis tu es vraiment une femme de prière, alors attends, je peux te le dire. Méfiez-vous de ça. Méfiez-vous de ça. Il y en a plein partout. Et quand l'apôtre Paul et Barnabas, ils se disent, Seigneur, on ne peut pas prendre une petite part au gâteau ? Quelques petites guirlandes, Seigneur. Le taureau, c'est pour toi. On vient de se faire... On a manqué la lapidation à Iconium. Seigneur, tu nous as offert l'hôtel 4 étoiles ici. Vous ne croyez pas que c'était tentant ? Que c'était pas tentant pour l'apôtre Paul de se dire, eh, on va dans le spa de l'Istre, là. On se fait 15 jours tranquille. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Tu as béni tes serviteurs. C'est très tentant, mes amis. C'est très, très dangereux. Et là, ils ont une réaction qui est dure. Hein, dire, non, on est au même niveau. Les amis, nous sommes des hommes. Oh, 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 je mange pas de ce pain-là, là. Vous savez, le diable va vous proposer, méfiez-vous des bénédictions qui viennent pas de Dieu. Et le diable est riche. Et le diable, s'il a pu préparer des taureaux, etc., et bien, oh, il saura comment faire pour te flatter. S'il n'a pas pu te décourager, il saura comment te... Vous savez ce qui va se passer derrière ? Dieu va les bénir ? Non. Comment ça, pasteur ? J'ai renoncé au spa 3 étoiles. Regardez ce qui se passe. Des juifs arrivèrent d'Antioche et d'Iconium. Ils parvinrent à retourner le peuple contre eux. Ils lancèrent des pierres contre Paul pour le tuer. Ils le traînèrent hors de la ville, croyant qu'il était mort. Seigneur, c'est comme ça. On a refusé les pots de vin et c'est comme ça qu'on est traité. Mais t'es qui, Seigneur ? Ça vous est, regardez Joseph, regardez l'histoire de Joseph. Il renonce à la femme de Potiphar. Conclusion, parce qu'il est intègre, il se fait de la prison. Seigneur, c'est quoi ? Explique-moi, Seigneur. Vous avez déjà vécu ça ? Vous avez renoncé à quelque chose pour Dieu. Et derrière, la sanction, elle est plus dure que dure. Vous dites, Seigneur, je ne comprends pas. Vous savez, c'est une des dernières leçons que je voudrais vous laisser, mais l'apôtre Paul, lors de ta mission, tu dois avoir la foi pour dire aux autres, lève-toi. Mais je vois dans ce verset, qu'il est dit au verset 20, « Mais les disciples se rassemblèrent autour de lui, il se releva et rentra dans la ville. » Il y a un deuxième miracle qui se passe, c'est que Paul était quasi mort et il se relève. Qu'est-ce que j'en retiens spirituellement pour moi ? J'en retiens que non seulement faut que je sois capable de dire aux autres, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Mais est-ce que je suis prêt, moi-même, lorsque je suis brisé, à dire, Seigneur, par ta grâce, au nom de Jésus, je me relève. Et ça, est-ce que vous saurez le faire ? Est-ce que vous savez rentrer dans la mission de Dieu ? Parce que Dieu a besoin que tu aies cette foi pour les autres, mais que tu aies cette foi pour toi. C'est facile de dire à la sœur, persévère. T'inquiète pas, cette maladie vient pas de Dieu, etc. Et toi-même, quand tu as un petit truc, tu dis « Ah, Seigneur !» Relève-toi. Relève-toi, je suis le même Dieu. Je suis le Dieu qui a béni cet infirme à la porte et je peux te bénir même quand tu as été lapidé. Et l'apôtre Paul, après avoir annoncé la bonne nouvelle dans cette ville, mais il est fou, hein. Il est fou, l'apôtre Paul. Il part à Derbe, il continue, il est intuable. Il est intuable. après avoir fait de nombreux disciples, ils retournèrent à Lystre. Mais t'as pas compris ou quoi? Je sais pas, imaginez, vous allez dans un endroit, vous faites caillasser, vous faites laisser pour mort. Brisez, vous relevez. Quelques temps après, il dit, Seigneur, j'ai pas évangélisé tout le monde, je retourne. Saint-Esprit, quel homme extraordinaire. Quel homme extraordinaire. Tant que tu n'as pas fini ta mission pour Dieu, tu es intuable. Tant que tu n'as pas fini ta mission pour Dieu, Satan ne peut rien contre toi. Tant que tu n'as pas fini ta mission pour Dieu, la tempête peut se déchaîner, les pierres peuvent tomber sur toi, tu es intuable. Puisque le même esprit qui ressuscita Christ vit en nous, tu es intuable. Alléluia, on ferme les yeux ensemble. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Donne-nous de réaliser la mission que tu as pour nous. Quel est ton appel pour notre vie? Donne-nous, Seigneur, de réaliser quelle est la préparation. Seigneur, je suis persuadé que ce matin, dans cette étude biblique, il y a des hommes et des femmes qui sont en préparation, qui peut-être se sentent sur la touche ce matin, qui se disent, Seigneur, m'as-tu oublié? Seigneur, tu es ce Dieu qui a formé Paul dans le secret à Tars. Tu es peut-être celui qui forme quelqu'un ici, dans là où il est, sur sa chaise ce matin, et il se dit, Seigneur, c'est toi qui lui parles. Je t'ai pas oublié. J'ai des projets pour toi. Je regarde la façon dont tu agis. Je regarde si tu as un esprit de service, si tu essaies de travailler en équipe, si tu sais mourir à toi-même et travailler avec les autres. Je te regarde. Seigneur, je te prie également pour ma vie, lorsque la mission se précise. Seigneur, donne-moi de bien comprendre jusqu'à où tu veux m'amener. Et quand bien même des portes se ferment, peut-être tu veux m'amener plus loin. Donne-moi de le comprendre. Peut-être que tu veux faire évoluer des missions. Peut-être qu'il y a eu des temps dans ma vie et puis un nouveau temps dans ma vie. Il y a peut-être une nouvelle saison dans la vie de quelqu'un. Pendant des années, ça s'est passé comme ça. Et tu as peut-être un nouveau appel, un nouveau service à mettre à cœur à quelqu'un. Seigneur Jésus. Alléluia. Gardez les yeux fermés. Façonné par ton plan divin. Ceux qui ont envie de servir Dieu puissent simplement lever les mains vers Dieu en disant Seigneur, que ton projet se réalise dans nos vies.
En ta présence, me guide en pas. Ton Esprit Saint, enseigne-moi. À vivre toute ma vie selon ton dessein. Je suis captivé par ton appel saint. Mets-moi à part, je sais que tu m'attires à toi. Guide-moi, je prie. Prends-moi, façonne-moi, sers-toi de moi, oh, remplis-moi, je m'abandonne entre tes mains, Seigneur. Ma vie.
Est-ce qu'on peut se lever ensemble pour terminer ce culte?
Entre tes mains, façonné par ton plan divin. Doucement tu m'appelles en ta présence, me guidant par ton Esprit Saint. saint, enseigne-moi à vivre toute ma vie selon ton dessein. Je suis captivé par ton appel saint. Mets-moi à part, je sais que tu m'attires à toi. Guide-moi, je prie. Prends-moi, façonne-moi, sers-toi de moi. Remplis-moi, je m'abandonne entre tes mains, Seigneur. Aide-moi
comme une prière.
Guide-moi,
Seigneur.
Dirige-moi. Marche avec moi. Je m'abandonne entre tes mains, Seigneur.
Tu nous vois, Seigneur, ce matin pour conclure ce culte. On veut que nos vies aient du sens pour toi. On veut vraiment que le Saint-Esprit nous conduise là où tu veux, dans le temps que tu veux, avec qui tu veux. Donne-nous d'être capable de dire aux autres de nous lever, de nous, de nous relever. Alléluia. Merci pour cette instruction de l'apôtre Paul. Merci pour ce livre que tu nous as laissé. Extraordinaire Bible, extraordinaire parole de Dieu. Que nous puissions la vivre maintenant tous les jours. Nous laisser conduire par toi dans le nom de Jésus. Alléluia. Et l'Église, ensemble, on dit Amen. Amen, Seigneur. Sois béni.